agents britanniques qui travaillaient au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Nul personnage historique ne s'est employé avec une pareille habileté à répondre lui-même de son vivant sa propre légende. À la vérité, Talleyrand a mis tout en œuvre pour éviter l'oubli par le silence.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je veux que pendant des siècles, on continue à discuter de ce que j'ai été, de ce que j'ai pensé et de ce que j'ai voulu. Ainsi s'exprimait, peu avant sa mort, survenu en 1838, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. À en croire les précieux travaux que lui a consacrés mon invité de ce matin, Emmanuel de Varesquiel, il semble bien que ce pari ait été gagné et que cet homme, qui a été si soucieux de se faire le maître impassible de sa propre image, ait réussi à en préserver le caractère fascinant jusqu'aujourd'hui. Fascinant parce que mystérieux, ambivalent, tout à la fois craint, haï et admiré. Je me suis mis à la disposition des événements, a-t-il dit un jour, expliquant ainsi qu'il ait préservé son pouvoir ou son influence depuis l'Ancien Régime jusqu'à la monarchie de Juillet, depuis Louis XVI jusqu'à Louis-Philippe, ce qui lui aurait valu de prêter, dit-on, 13 serments successifs. À la disposition des événements, certes, mais en les influençant aussi dans toutes les dimensions de la politique, de la diplomatie et de l'économie. Ce manœuvrier corrompu a été aussi un visionnaire, capable de longues pensées et de vastes desseins, porteur quant à l'équilibre des nations de convictions fécondes, qui n'ont pas perdu de leur actualité et peut-être, en partie au moins, de leur vitalité. Ce diable boiteux, ressurgissant au présent, en personnage aussi intense qu'il est sulfureux, ayant encore beaucoup à nous dire, eh bien, le voici.
Nuit, j'ai rêvé de vous.
Un cauchemar, sans doute.
Vous vous déshabillez comme le fait chaque soir votre valet. Et qu'est-ce qu'on trouvait après vous avoir épluché de toutes vos étoffes?
Rien.
Et comment avez-vous deviné?
Mais parce que c'est vrai. Vous êtes un bon policier, Fouché. Chez moi, même en habit de cour, doublé, doré et décoré, le rien perce. Ah, j'oubliais. Si vous vous décidez à m'accompagner ce soir chez le roi, il vous faudra prêter serment. Le serment de fidélité.
Oh, ce ne sera que le 8e.
Vous 8, moi 12.
On n'a qu'une parole, faut donc la reprendre.
Surtout si on doit la redonner. Sans doute vous allez rire, Fouché. Mais cette fois, je suis sincère. Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. Une France exemplaire où l'on aurait parlé paisiblement la plus belle langue du monde. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette même idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles. En cru, si j'ose dire. Cette France-là, batailleuse, aspirant à toute l'Europe, ne me disait rien qui vaille. Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vie. La restauration va ramener dans ses fourgons les privilèges. Elle ne donnera pas de génie aux privilégiés.
En somme, vous n'avez trahi que par vertu.
Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Un fidèle au régime. J'ai toujours été fidèle à la France. Et puis je vais vous faire un aveu, tout ça. Ce qu'on dit de moi... Je m'en fous.
Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Vous aurez, j'en suis sûr, reconnu un extrait du film « Le souper » d'Édouard Molinaro, un film de 1992, d'après la pièce de Jean-Claude Briseville, avec Claude Brasseur dans le rôle de Fouché et Claude Riche, c'est lui surtout que nous entendons, en l'occurrence dans le rôle de Talleyrand. Le sous-titre que vous aviez choisi pour la biographie majeure que vous avez publiée il y a une dizaine d'années, c'était « Le prince immobile ». Oui. Au fond, il est tout sauf immobile sous votre regard.
Il est en évolution constante. L'immobilité renvoie à l'immobilité du visage. La notion d'immobilité, c'est cette phrase de Lannes que j'aime beaucoup. On lui donnerait un coup de pied au cul que les traits de son visage ne vous en diraient rien. C'est ce visage sans sourire ni grimace, disait Sainte-Beuve de façon très juste. C'est cette capacité à surmonter les colères des uns et des autres, à surmonter les orages sans scier et sans sourciller. C'est évidemment une très grande force du point de vue de la négociation et du point de vue du diplomate.
Divin, complexe, successif, disait la duchesse de Dinau, sa nièce par alliance qu'il a beaucoup aimée.
Et Dieu sait qu'elle le connaissait bien. Elle n'a pas seulement été sa nièce en épousant Edmond Périgord, qui était le neveu de Talleyrand, mais elle a été probablement sa maîtresse après le congrès de Vienne en 1816. Il l'appelait mon petit Marsouin. Ça a probablement été le grand amour de Talleyrand, ce qui prouve que cet homme, l'image scintillante ou grimaçante du mal, était aussi un homme incroyablement sensible. La voilà, la diversité et la complexité, avec une capacité de fidélité sentimentale vis-à-vis des amis qui étaient les siennes et qui l'ont été quasiment depuis le règne de Louis XVI et le sont restés jusqu'à la fin de ses jours. « Je suis une vieille machine aimante », écrit-il dans une lettre qu'il adresse à l'une de ses amies. « Les vieilles amies du sérail », disait Vitrolles méchamment. « Vous avez des femmes plein les poches », disait encore Napoléon. Il n'empêche qu'il a eu cette fidélité-là et ce n'est pas la seule.
En dépit de ces serments successifs, vous considérez que Jean-Claude Briseville rend assez bien compte dans cet extrait que nous venons d'entendre de plusieurs des aspects de cette personnalité multiforme ?
Je trouve que le Talleyrand joué par Riche, plus que celui qui a été joué autrefois par Sacha Guitry, est très juste. En dehors de quelques écarts de langage, mais il y a des phrases qui apparaissent dans le souper et qui sont très proches des mots qu'on a prêtés à Talleyrand. Je pense à l'une des dernières phrases qui est prononcée par Riche et qui, autrement dit, est celle-ci, « Je porte malheur au gouvernement qui me néglige ». Briseville a certainement travaillé de très près, non seulement les collections de mots d'esprit, et on lui a beaucoup prêté de ce point de vue-là.
On en a fait des recueils,
les textes écrits par Talleyrand lui-même, que ce soit les mémoires, mais aussi les textes politiques, les discours. Il y a eu certainement une lecture de la part de Briseville très attentive.
Alors je voudrais que vous nous rappeliez, naturellement chacun parmi mes auditeurs et mes auditrices connaît en détail la vie de Talleyrand, mais faisons comme si ce n'était pas le cas. Et en quelques minutes, je voudrais que vous nous rappeliez cet itinéraire avant que nous parlions des choses plus thématiques pour considérer les divers aspects de son actualité.
Il naît donc en plein siècle de Louis XV et c'est profondément du point de vue des héritages culturels, de civilisation, c'est profondément un fils des Lumières. Il a été très rapidement ordonné diacre puis prêtre et il va connaître une carrière ecclésiastique dont il a dit qu'elle lui avait été imposée et qui, en fait, d'où toute la recomposition lui-même autour de sa boîterie et de son pied beau, mais qui, en réalité, était une carrière qui lui était offerte sur un plateau d'argent, si j'ose dire, puisque dans son entourage familial, il y avait un personnage clé qui était un des frères de son père, qui s'appelait Alexandre Angélique de Talleyrand, et qui était coadjuteur de l'archevêque de Reims. L'archevêché de Reims lui était comme neveu, népotisme aidant, ce qui était le cas très souvent au XVIIIe siècle, lui était promis. Et donc, il y avait peu d'appelés, il y eut peu d'élus, il était le seul à être en âge d'embrasser une carrière ecclésiastique, ce qu'il a fait, évidemment, sans scrupule. La question de la vocation ne se pose pas au XVIIIe siècle comme elle se posait au XIXe siècle. Et avant même la Révolution, il accède d'une certaine façon au pouvoir. L'ordre du clergé, le premier ordre du royaume, est un ordre extrêmement puissant, financièrement et territorialement parlant, et le clergé qui s'organise en en assemblée générale qui se réunissent tous les ans, élit ce qu'on appelait à l'époque un agent général du clergé, qui était une sorte de ministre des finances ou de ministre du contentieux, des contentieux, et ils étaient nombreux qu'avait le clergé avec le gouvernement royal d'une part et avec le tiers-état de l'autre. Talleyrand sera l'agent général du clergé, brillant agent général du clergé de 1780 à 1785, avec entrée dans les conseils du roi, etc. Il arrive donc à plus de 35 ans en 1789, à peine élu évêque d'Autun, élu également aux états généraux, dans l'ordre du clergé aux états généraux de 1789, et il va embrasser la cause de la Révolution dès 1789, pour ensuite, en 92, obtenir une mission diplomatique en Angleterre de la part de Danton et s'éloigner prudemment d'une scène politique qui devenait par trop violente pour lui.
La guillotine lui est épargnée de la sorte.
Il va être tout de même inscrit sur la liste des émigrés. Il va voyager et faire des affaires aux États-Unis pendant 2 ans, revenir en 1797 en France, devenir successivement le ministre des Relations extérieures du Directoire, du Consulat, de l'Empire jusqu'en 1807, et puis à nouveau de Louis XVIII sous la première Restauration, et encore une fois de Louis XVIII en 1815, après les Cent Jours et Waterloo, sous la seconde Restauration. Il sera enfin l'ambassadeur de Louis-Philippe à Londres, et quasiment une sorte de ministre des Relations extérieures in partibus, à partir de 1830 jusqu'en 1834. Il meurt en 1838. Vous voyez que c'est une carrière politique et un rapport avec le pouvoir qui est incroyablement long, surtout étant donné la moyenne d'âge des hommes de cette époque-là.
Nous allons faire un arrêt sur image, si vous voulez, grâce à Sacha Guitry. Vous évoquiez le Diable boiteux il y a un instant, ce film de 1948. Il imagine un dialogue entre les serviteurs de Talleyrand. Je trouve que ce dialogue met assez bien en scène la personnalité, vous allez nous le dire, la personnalité de notre homme.
Vous devez vous dire qu'à dater d'aujourd'hui, vous entrez en qualité de valet de pied chez le diable.
Chez le diable?
Ni plus, ni moins.
Diable? Mais ça n'est pas rassurant.
Voilà prévenu.
Mais qu'est-ce qu'il a donc de diabolique?
Sa façon d'être et de parler. Et sa manière aussi de vivre.
Et puis enfin, tout ce qu'il a fait.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Vous arrivez donc Carpentras?
Non, maître Quimper.
Ah, vous savez qu'il est noble?
Évidemment. Ah. Et vous pensez bien qu'étant noble, il était monarchiste?
Bien sûr.
Oui. Eh bien, à la Révolution, il a fait cause commune avec les Jacobins.
Président de l'Assemblée nationale, il a trahi la République. Ministre des Affaires étrangères pendant le Directoire, il l'est resté sous le Consulat.
Et maintenant que l'empereur est monté sur le trône, il est son conseiller intime.
Jusqu'au jour où, sans doute, il trahira l'empereur.
Alors, c'est un traître?
Ça, c'est la grande question. Et il garde longtemps ses serviteurs?
2 jours ou toute la vie? Je suis là depuis 22 ans.
Moi, depuis 20 ans.
Moi, depuis 12 ans.
Mais alors, vous l'aimez?
L'aimer, mon Dieu, ce n'est pas le mot.
Car il a je ne sais quoi qui fait qu'on le déteste
et qu'on s'attache à lui.
Il vous amuse?
Non.
Il vous étonne?
Oui.
Il vous fait peur?
Parfois.
Il vous séduit?
Peut-être. En vérité, je crois que l'on n'est pas honteux d'être un valet chez lui, parce que c'est un maître. Il sait donner des ordres, et ça devient très rare. Il n'a pas son pareil pour se faire servir, ainsi il se fait soigner par nous, sans aucune pudeur.
Et il est bel homme?
Affreux. Et ça ne vous dégoûte pas de le soigner?
Du tout.
C'est curieux.
N'est-ce pas?
Il nous insulte, il nous tutoie, il nous botterait les fesses s'il pouvait lever la jambe.
Mais le jour de l'an, il nous embrasse. C'est pour tout dire un grand seigneur.
C'est un procédé ancien, Emmanuel de Varesquiel, de présenter les personnages d'une pièce ou d'un film à partir de la cuisine. On pense un peu à la règle du jeu. En l'occurrence, est-ce que c'est efficace?
En ce qui concerne le Diable boiteux, ça l'est. C'est une façon, en effet, de présenter le personnage. Guitry a écrit le Diable boiteux avec des intentions politiques et d'auto-justification évidentes, comme vous le savez, puisque c'est un au départ une pièce de théâtre qui est postérieure de quelques années à la Seconde Guerre mondiale. Il y a dans la présentation ou dans l'identification de Guitry à Talleyrand une volonté de justification de Guitry lui-même en ce qui concerne les activités qui ont été les siennes pendant la guerre.
Il a été quelques jours en prison à la Libération.
Il a été quelques jours à Drancy. Et il disait très drôlement d'ailleurs que le seul personnage avec lequel il n'aimerait pas dîner, ce serait un juge d'instruction. En tout cas, Guitry a eu quelques compromissions entre 1940 et 1944 et il s'est caché ou s'est servi de talent sur le thème du service de l'État qui vaut tous les serments et éventuellement toutes les trahisons.
En somme, votre prince immobile, votre cher Talleyrand, votre diable, Emmanuel de Varesquel, peut servir à beaucoup d'usages.
Il sert à tous les usages politiques, à droite comme à gauche. On peut considérer que c'est un homme de gauche qui a mené une politique de droite, mais on peut aussi considérer que c'est un homme de droite qui a mené une politique de gauche, son point de vue, entre 1800 et 1815 en tout cas.
Il y a chez lui, c'est un premier aspect sur lequel je voudrais que nous insistions, il y a chez lui une stratégie du secret et de l'opacité qui n'est pas incompatible avec la volonté de présenter aussi, il annonce par là d'une certaine façon la communication contemporaine, d'être le maître de sa propre réputation.
Il est certainement l'un de ceux qui, avec la Révolution française et l'irruption de l'opinion publique sur la scène publique, cet espace public du politique, disait Jürgen Habermas, il est l'un de ceux qui ont pressenti le paradoxe que cela allait entraîner du point de vue de l'homme d'État. Il est de ceux qui pensent que plus l'homme d'État est confronté à l'opinion publique, plus, en effet, il doit inventer les stratégies du secret et de l'opacité. Ça a été toute la vie de Talleyrand. Talleyrand a toujours été très sensible à l'opinion publique et à l'intérêt et à l'attention qu'un homme d'État doit porter à ce qu'on appelait à l'époque l'opinion publique. C'est quelque chose de...
Ou l'esprit public, on disait aussi.
Exactement. C'est quelque chose de très important chez lui. Ça détermine presque sa vision politique du point de vue de l'État et de l'organisation de l'État, qui pourrait se résumer par cette phrase. Un État n'est fort que s'il est capable d'admettre l'intrusion du temps dans son organisation. Le temps, c'est l'évolution de l'opinion. Il y a un discours très célèbre de lui à la Chambre des Pairs en 1821, sous la Restauration, dans lequel il dit « il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que Voltaire, qui a plus d'esprit que Rousseau, c'est tout le monde ». S'il a été fidèle à quelque chose, il l'a été à cela. Il y a beaucoup plus de fidélité chez Talleyrand, au-delà des sermons à répétition, qu'on ne croit et qu'on ne pense. Il a toujours été, dès le départ, un homme de la mixité, un homme qui a pensé que l'hérédité monarchique, que l'exécutif monarchique devait être contrebalancé par une représentation nationale dès 1789, dans les grands débats institutionnels d'août et de septembre 89. Il est de ceux qui plaident, en référence à l'Angleterre d'ailleurs, pour une sorte de bicaméralisme tempéré, la balance des pouvoirs, comme il le dit, idée à laquelle il va rester fidèle, quels que soient les aléas napoléoniens de l'Empire, jusqu'à la fin de ses jours.
Alors, puisque nous parlons de l'actualité de Talleyrand spécifiquement, est-ce que ce commerce qu'il entretient avec l'opinion publique, commerce parfois vraiment organisé par lui, parfois subi puisqu'il a été l'objet d'un grand nombre de caricatures, est-ce que tout cela vous paraît moderne si nous réfléchissons à ce va-et-vient entre jadis et aujourd'hui ?
Il est extrêmement moderne dans la façon dont il s'est recomposé lui-même en grande partie et dans la façon dont il a jugé utile de se servir précisément de la presse. Il le dit à Danton en 1792 quand il est à Londres, il parle de faire un peu bien parler de nous. Et il a toujours été très sensible à l'image qu'on a pu donner de lui, jusqu'à collectionner les caricatures qu'on publiait sur lui, et jusqu'à Dibarras, de façon un peu ironique, à être capable de s'endormir en lisant un pamphlet qu'il concernait. Il y a toujours eu ce jeu, un peu du chat et de la souris, de Talleyrand, avec les images qu'on a pu donner lui, jusqu'à cette capacité à se cacher derrière sa légende et sa légende noire, et jusqu'à cette capacité à alimenter et à convenir de l'utilité pour lui du point de vue du secret, de la diffusion de cette légende noire qui a été très rapide. Dès 1792, le diable boiteux n'est pas une expression inventée par Guitry en 1947. Elle est inventée par l'émigration cléricale à Londres en 1792, au début de la Révolution française.
Avec contre lui une débauche de comparaisons zoologiques, comme c'est particulièrement à la mode à l'époque. On est bien avant les guignols de l'info, dans une sorte de dérision perpétuelle à ses dépens, et néanmoins, il lui arrive de s'en glorifier.
Du point de vue de la zoologie, c'est très riche. Hein, et du point de vue des caricatures, s'il est comparé à quelques animaux, c'est essentiellement au renard, bien sûr, au singe, quelquefois à l'araignée tentaculaire. C'est une comparaison qui perdurera. Mais la comparaison la plus intéressante du point de vue de sa légende, c'est celle, et Guitry l'évoque via les serviteurs de Talleyrand qui l'attendent, rue Saint-Florentin en 1815, qu'on a écouté tout à l'heure. La comparaison la plus prégnante, c'est celle du diable. Elle est arrivée très rapidement, dès les débuts de la Révolution française, autour de la proposition que fait Talleyrand en 89 à la tribune de l'Assemblée nationale de la vente des biens du clergé pour réduire ou pour résoudre la question du déficit public. Et très rapidement, Talleyrand, dans les caricatures révolutionnaires de l'époque, est comparé à Judas Iscariote. Et de Judas Iscariote, on passe progressivement au diable lui-même. Et cette diabolisation de Talleyrand sera particulièrement prégnante via les grands caricaturistes comme Daumier, par exemple, à partir de 1830 sous la monarchie de Juillet.
Sur ce sujet, je voudrais vous faire entendre un extrait d'une conférence de Léon Noël, vous savez, l'ambassadeur à Prague avant la guerre, qui a été un éminent diplomate, un compagnon du général de Gaulle, président du Conseil constitutionnel, et qui a fait des recherches sur Talleyrand, qui a écrit sur lui, et qui, en particulier, a prononcé une causerie le 1er juillet 1949, dont je vous propose cet extrait.
Nul personnage historique ne s'est employé avec une pareille habileté, avec autant de calculs, avec autant d'applications, à créer, à orchestrer, à répandre lui-même de son vivant sa propre légende. Nul non plus n'a pris pareil plaisir à embrouiller, à confondre les voies sur lesquelles l'histoire devrait s'efforcer de le suivre dans ses multiples évolutions, pour tenter de porter un jugement définitif sur l'homme et sur son action. Dès sa jeunesse, avec un art consommé, il a posé pour ses contemporains et pour l'histoire. De très bonne heure, il s'est composé une physionomie. Dès cette époque, il ne se contentait pas de faire parler de lui par ses mots d'esprit et de soutenir continuellement l'attention. Il suggérait qu'il était au niveau des plus hauts emplois et que ses exceptionnels mérites l'y prédestinaient naturellement. Les femmes qui, selon un bien joli mot de sa nièce par alliance, Madame de Dinot, ont tenu tant de place dans ses habitudes sociales, les femmes... Il les utilisa dès son entrée dans la vie et jusqu'à la fin de sa longue existence pour assurer sa publicité, célébrer ses dons, le proclamer indispensable, entretenir autour de lui une sorte de culte admiratif, respectueux et passionné.
Emmanuel de Varesquiel, vous retrouvez dans cette analyse de Léon Noël le Talleyrand que vous décrivez dans vos ouvrages ?
Avec quelques nuances et peut-être une complexité et des paradoxes un peu plus soutenus. Quelque chose qui me paraît moi très important s'agissant de la modernité du personnage, c'est la compréhension qu'a eu Talleyrand à l'égard d'une révolution qui est celle du pouvoir des mots. Il a compris que la révolution, c'était le pouvoir de la parole et qui tenait la tribune tenait le pouvoir au cours de cette lutte de clans qui a été l'histoire de toute la Révolution à partir de 1789. Et il dit de façon très amusante d'ailleurs en 1814, lorsqu'il prépare ce qui sera un coup d'État et qui contribuera au renversement de Napoléon, en convoquant le Sénat pour décréter en avril 1814 la déchéance de l'Empire, il dit « Faites venir les vieux révolutionnaires, les Garat, les Lambrecht et autres, ils sauront brandir les mots de liberté et d'égalité qui nous permettront d'agir. »
L'émergence du logos démocratique, au fond, parce que les acteurs de la Révolution de 89, ils ont formé largement leur éloquence, soit dans l'Église, l'éloquence religieuse, soit évidemment au barreau, ou éventuellement à l'université. en tout cas dans l'enseignement. Alors, eh bien, cela, il s'en saisit. Et par là, comme vous le dites, il paraît moderne, non?
Oui, cette modernité, c'est cette intelligence, cette compréhension de ce pouvoir des mots, derrière lequel, encore une fois, on peut éventuellement se cacher. Il y a ce jeu politique sur les mots et derrière les mots qui a été celui de Talleyrand depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Et à la fin de sa vie, il prononce un discours à l'Institut en hommage à l'un de ses collaborateurs qui était Reinhardt. Il y a là, à travers les mots, la patte de l'artiste qui veut un peu trop réussir son tableau. Il fait l'éloge, par exemple, de l'honnêteté en diplomatie. Et on sait que derrière cet éloge et derrière ce discours et ce formalisme du discours, il y a évidemment, du point de vue de la méthode et du point de vue de l'action diplomatique de Talleyrand, bien autre chose que cela.
Venons-en justement à Talleyrand diplomate, parce que aujourd'hui, il semble que l'attention qu'on lui porte, notamment chez un certain nombre de responsables de nos diplomaties contemporaines,
oui,
Villepin, Hubert Védrine et d'autres, elle est faite d'abord de curiosité adressée à la manière dont il a conçu l'équilibre des nations, le concert des nations.
La vision diplomatique de Talleyrand pourrait se résumer en cela. Un État n'est grand que lorsqu'il est capable de ne pas humilier son adversaire alors même qu'il est en position de force dans une négociation. Ça a été un axiome qu'a respecté Talleyrand pendant toute sa carrière. Et puis il y a aussi cette idée, derrière ce discours de la méthode, de l'équilibre de la négociation, une vision qui est celle de l'équilibre des nations et de l'équilibre européen des grandes puissances. Équilibre territorial, équilibre continental, mais équilibre maritime aussi. Derrière cette notion très modérée de l'équilibre, il y a une lutte sans merci, par exemple, qui a été menée par Talleyrand, comme ministre des Relations extérieures de la France, contre l'Angleterre, du point de vue de la domination des mers, notamment en Méditerranée, et qui a été l'un des grands combats diplomatique et économique de Talleyrand depuis la Révolution jusqu'à la monarchie de Juillet.
Il est un peu paradoxal, en somme, qu'il ait fondé une paix durable, qu'il ait contribué avec Metternich et d'autres à fonder une paix durable au Congrès de Vienne, alors qu'il se fondait sur des principes anciens et que le 19e siècle a été le triomphe apparent des nationalités.
Tout le principe diplomatique de Talleyrand est de faire du neuf avec de l'ancien et de renouveler à partir d'une vision et d'une connaissance très précise de ce qu'ont été les relations diplomatiques en Europe au XVIIIe siècle et les grands traités, les grands congrès comme le congrès de Westphalie au XVIIe siècle. Ça, c'est très juste. Et puis, il y a à Vienne, en 1815, de la part de Talleyrand, une vision, il a été presque un visionnaire de ce point de vue-là, une vision qui est celle du risque d'un antagonisme trop violent entre les grandes puissances européennes et particulièrement la puissance autrichienne d'un côté et la puissance prussienne de l'autre. Et l'une des constantes du point de vue diplomatique chez Talleyrand, l'une de ses constantes, ça a été l'organisation de ce qu'on pourrait appeler des corps intermédiaires, c'est-à-dire des ensembles de petites principautés liées par un lien économique qui viendraient se glisser comme un coin entre les antagonismes, entre les grandes puissances. C'est pour cela qu'il a été l'un des pères fondateurs de ce qu'on a appelé la Confédération du Rhin, puis la Confédération germanique, et qu'il a constamment veillé à éviter une coexistence de frontières entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et dans un certain sens, c'est cette justesse de vision qui a permis à l'Europe de rester en paix au moins jusqu'en 1870. Je suis persuadé personnellement que sans Sadova, 66, il n'y aurait pas eu Sedan, 70. Et que c'est à partir du moment où cet équilibre fragile établi par Talleyrand et par Metternich, mais sous l'influence de Talleyrand en 1815, c'est lorsque cet équilibre fragile au centre de l'Allemagne s'effondre qu'il y a ce retournement de la puissance prussienne.
Il faut rappeler que 66, Sadova, c'est la victoire de la Prusse sur la Saxe et sur l'Autriche, brisant cet équilibre à quoi Talleyrand était tellement, tellement attaché. Kissinger avait fait sa thèse à l'origine sur la période instaurée par Metternich, Castlereagh et Talleyrand, et pensait que c'était un modèle qui pouvait continuer d'être utile. Si on songe que l'Europe, en gros, a connu trois modèles, quand elle a tendu vers son unité, ou bien César conquérant, ou bien un concert de puissance toutes plus ou moins satisfaites, comme le voulaient Talleyrand et Metternich, ou bien une union spontanée, organisée, telle que nous la connaissons depuis 1950.
Pour revenir à l'actualité de Talleyrand et autour de ce que vous venez de dire, Talleyrand s'est toujours méfié de cette idée de la conquête territoriale, et il a une expression qu'on pourrait transposer aujourd'hui en conquête économique. Il a toujours eu le souci de ce qu'il appelle le perfectionnement de nos institutions. Il l'écrit à Danton de Londres en 1792, et il dit « Notre jeune république aurait bien plus intérêt à perfectionner ses institutions plutôt que de songer à conquérir des territoires nouveaux au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Et ça, c'est, je dirais, une analyse d'une situation qui est celle des débuts de la Révolution, qu'on pourrait transposer aujourd'hui, non plus du point de vue de la guerre territoriale, mais de la guerre économique.
Alors, pour rester un instant au moment du congrès de Vienne, c'est-à-dire 1814-1815, congrès qui est suspendu un moment par l'épisode de Napoléon revenant de l'île d'Elbe pour les 100 jours, mais qui reprend ensuite. Un nouvel extrait du film Le Diable boiteux de Sacha Guitry, et cette fois nous allons l'entendre lui-même, personnifiant, pour des raisons que vous avez fort bien dites tout à l'heure, et avec un plaisir qui transparaît, personnifiant Talleyrand.
Dès l'abord, je prie vos excellences de bien vouloir considérer qu'il est une expression dont il conviendrait désormais de ne plus se servir. Et c'est celle-ci, les puissances alliées.
Mais nous sommes les puissances alliées.
Contre qui? Ce n'est plus contre Bonaparte, il est à l'île d'Elbe. Ce n'est plus contre la France, la paix est faite. Et ce n'est sûrement pas contre le roi de France, il est garant de la durée de la paix. Messieurs, je suis peut-être ici le seul qui ne demande rien. De grands égards pour la France, c'est tout ce que je veux. Mais ne demandant rien, je vous apporte immensément. Car la présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose l'ordre social. Et à cet égard, j'invoquerai le droit public selon lequel nous devons agir.
Que fait ici le droit public?
Il fait que vous y êtes.
Pourquoi dire que nous agirons suivant le droit public? Cela va sans dire?
Eh bien, si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant. Le premier devoir du Congrès est de bannir à jamais l'opinion que l'on peut acquérir des droits par la seule conquête. Si, comme on le répand déjà, quelques puissances privilégiées prétendaient exercer sur ce Congrès un pouvoir dictatorial, je dois dire que me renfermant dans les termes du traité de Paris, je ne m'occuperai d'aucune proposition qui viendrait de sa part.
Est-ce que vous n'allez pas trop loin? Je ne crois pas. Vous allez les fâcher.
Les diplomates, ça ne se fâche pas. Ça prend des notes. Regardez-la.
C'est un extraordinaire morceau de bravoure diplomatique et aussi de propagande, bien entendu.
Ça sonne juste.
Par Talleyrand, ça sonne tout à fait juste. Il y a deux petites remarques que je voudrais faire. D'abord, une remarque de forme. Guitry a profondément transformé l'image de Talleyrand. Il était petit, Talleyrand était grand. Il avait une voix de nez, comme on vient de l'entendre, alors que Talleyrand avait une voix de basse et non pas une voix de nez, ce cas. Guitry transforme en partie l'image, ça c'est le travail de la mémoire. Hein. Et puis plus sérieusement, qu'est-ce que c'est que le congrès de Vienne? C'est au fond la réorganisation de l'Europe sur les dépouilles de l'Empire napoléonien. Au congrès de Vienne réapparaissent les ambitions. Les coalitions qui se sont formées contre Napoléon se sont formées sur un plus petit dénominateur commun qui était la peur que provoquait la France à l'égard de l'Europe, cette peur de la conquête et de la domination. Une fois que cette peur disparaît avec Napoléon, les ambitions se réveillent. Et tout le travail de Talleyrand, ça a été précisément de combattre ces ambitions, ce qu'il appelait les convenances. Les convenances, et notamment celle de l'empereur Alexandre Ier de Russie, qui cherchait à mettre la main pour lui-même sur la Pologne et pour ses amis prussiens sur la Saxe. Et contre ces convenances, ce qu'il appelle les convenances, Talleyrand oppose ce qu'il appelle le droit public, c'est-à-dire le respect des traités et des conventions, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu anachronique les conventions internationales. D'où ce dialogue extraordinaire que raconte Talleyrand lui-même dans une lettre à Louis XVIII, que l'on a entendu dans cet extrait du film du Diable boiteux. Que fait le droit public? Demande un diplomate prussien qui est en l'occurrence Humboldt, et Talleyrand lui répond du tac au tac, il fait que vous y êtes. Et ça a été L'un des principes, Talleyrand s'est toujours servi au cours de ces différentes négociations des principes par rapport à leur valeur d'usage, à un moment donné de la négociation, quand cela lui était nécessaire. Et Dieu sait qu'il a inventé des principes. Il a inventé le principe de légitimité en 1814, le droit public en 1815, il ne l'a pas inventé, mais il s'en est servi. Et puis, il a inventé le principe de neutralité, dans un certain sens, pour la Belgique, à Londres, en 1830.
Principes qui sont inégalement présents dans notre diplomatie contemporaine. La légitimité a disparu. Les autres sont présents ?
Celui de neutralité et celui de non-intervention, par exemple pour sauver la situation en Belgique, la révolution belge de 1830, c'était un principe qui a été actif, mais qui, avec le droit d'ingérence humanitaire, qui a beaucoup évolué dans la seconde moitié du XXe siècle.
Il y avait déjà eu une ingérence en Espagne au temps de Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères, quelques années avant 1830.
Absolument.
Donc la doctrine paraît ferme, mais la pratique est fluctuante.
Tout à fait.
Il rejoint d'ailleurs les caractères fluctuants de notre diplomatie contemporaine. On intervient en Libye, on n'intervient pas en Syrie.
L'intervention française en Espagne en 1823 a été combattue par Talleyrand lui-même. Je dirais que les principes de Talleyrand sont des principes non-interventionnistes autant que faire se peut. Mieux vaut une bonne négociation qu'une intervention militaire, quelles que soient les circonstances.
Quitte à rester au balcon si des crimes intestins sont commis dans tel ou tel pays ?
La notion de crime contre l'humanité, vous le savez aussi bien, voire mieux que moi, n'existe pas à l'époque. Et les interventions ne se font pas au nom des droits de l'homme, elles se font au nom des intérêts des nations qui sont en opposition les unes avec les autres. Et je voudrais dire sur ce point que Talleyrand a très vite compris que les guerres révolutionnaires qui ont été présentées en France comme des guerres idéologiques, entre guillemets, aider les peuples à disposer d'eux-mêmes, étaient au fond des guerres qui s'inscrivaient dans une continuité qui était celle des intérêts économiques et politiques des nations avant la Révolution. Et il est l'un de ceux qui ont vu ce principe de continuité des intérêts avant, pendant et après la Révolution française, quels que soient les discours de légitimation qui ont pu être prononcés ici et là pour justifier ces guerres de conquête.
De ce point de vue-là, l'histoire des relations de Talleyrand avec Napoléon peut éclairer sur la rencontre de visions de l'Europe, sinon du monde.
Bien sûr. Alors il y a les mots, il y a ce mot merveilleux de Talleyrand à l'égard de Napoléon. L'empereur fut perdu le jour où il fit un quart d'heure plus tôt ce que j'obtenais qu'il fasse un quart d'heure plus tard. Et c'est un mot qui en dit assez long.
C'est-à-dire
sur ses rapports de modération du côté de Talleyrand, d'ambition du côté de Napoléon, qui ont été et qui ont formé ce très curieux attelage politique qui s'organise et qui commence dès les années du Directoire, dès 1797, au moment de la première rencontre au retour des campagnes d'Égypte de Bonaparte et de Talleyrand, qui est déjà ministre des Relations extérieures du Directoire, et qui se continuera, se poursuivra, bon an, mal an, jusqu'en 1814. Les rapports de Talleyrand et de Napoléon sont si on voulait utiliser une image, une sorte de fétiche hérissé de clous, traversé de violence et traversé de comédie aussi. On a affaire là à deux très grands prédateurs de la politique et à deux très grands acteurs de la politique, deux très grands comédiens qui se sont charmés mutuellement. Il n'y a pas seulement chez Talleyrand de l'esprit, il y a aussi un immense charme auquel Bonaparte a été certainement sensible. Talleyrand représente ce qui reste de l'aristocratie de cour de l'Ancien Régime. Il traverse la Révolution en bas de soie et perruque poudrée. Il ne porte pas la douleur de la Révolution en bandoulière comme le porteront les romantiques, par exemple. Et cette capacité à la distance, cette capacité, je dirais, à l'immobilité, ont fasciné Bonaparte. Bonaparte, par exemple, et c'est rapporté par Madame de la Tour Dupin dans ses mémoires, est très étonné de voir qu'au moment de la conclusion de la paix d'Amiens avec les Anglais, qui était quand même une très grande victoire diplomatique de Bonaparte en 1802, Talleyrand, qui connaît la nouvelle et qui passe quelque temps dans le cabinet du premier consul aux Tuileries, ne la délivrera qu'au bout d'une heure. et de façon parfaitement neutre, sans enthousiasme. Bonaparte avait été frappé par ce sang-froid extraordinaire de son ministre à cette occasion-là, et il y en a eu beaucoup d'autres.
Dans le concret de la pratique d'une diplomatie, que diriez-vous de l'actualité de Talleyrand? Il y a des côtés très désuets, dans le côté le congrès s'amuse, on danse, des relations qui sont selon des formes qui nous apparaissent très, très désuètes. Et pourtant, vous êtes frappé par une certaine modernité, un certain art de la diplomatie dont Talleyrand a pratiqué l'évidence et dont il a théorisé parfois dans ses écrits la pertinence.
Le mot est de ligne, le congrès ne marche pas, il danse.
Mais le prince de ligne.
Du prince de ligne, Charles-Joseph de ligne, qui est d'ailleurs mort au milieu du congrès en décembre 1814.
Quel rêve pour un danseur et pour un diplomate.
Oui. En effet.
Il y avait 80 ans, quelque chose
comme ça. En grande pompe et en feldmaréchal de l'Autriche. Pour répondre plus sérieusement à votre question, il faut faire la part.
Je vous en remercie.
Il faut faire la part de l'évolution des usages. Il n'y a pas de bonne diplomatie sans bon dîner, disait Talleyrand, qui avait fait venir à Vienne un cuisinier qui restera célèbre, qui est Carême, et qui d'ailleurs attachait jusqu'au moindre petit détail de l'importance à ses à-côtés diplomatiques. Par exemple, quand il négocie à Presbourg en 1805, quelques jours après Austerlitz, la paix entre la France et l'Autriche, il s'inquiète de ne pas avoir à sa disposition l'argenterie du ministre pour organiser les réunions et les dîners qu'il aura avec les négociateurs autrichiens.
Il y a encore une diplomatie prandiale aujourd'hui.
Oui. Oui, elle avait toujours probablement plus d'importance à l'époque de Talleyrand, bien sûr. Et cette question de l'étiquette, qui sera réglée d'ailleurs en partie grâce à Talleyrand à Vienne, était une question qui certainement avait plus d'importance en 1815.
Donc les formes et aussi une certaine manière de traiter le temps, matière première du diplomate comme de l'historien d'ailleurs.
Oui.
Vous en parliez tout à l'heure. Cela est toujours vrai, non ?
Oui, ça l'est beaucoup moins.
Le moment opportun.
Oui, alors il y a cette rapidité de l'action diplomatique au moment où, après avoir jeté ce que Vitrolles appelle des plombs dans toutes les chances de l'avenir, on juge que la situation est mûre pour l'action. Et Dieu sait que Talleyrand a été derrière l'écran de paresse et l'écran de plaisir qu'il a jeté autour de lui. Et Dieu sait que Talleyrand a été un homme d'action et même un homme de coup d'État. Hein. Il participe au coup d'État de Brumaire en 8 avec Bonaparte, puis il en fait un quasiment lui-même en 1814, puis il donnera un coup de pouce pour renverser Charles X en 1830. Mais au-delà de cette pratique et cette politique de l'action, il y a chez Talleyrand, et je voudrais insister là-dessus car les choses ont beaucoup changé, à mon avis, de ce point de vue-là, un sens du temps long. Il y a une attention constante portée par Talleyrand. C'était un département très important de son ministère, les archives par exemple, à l'histoire diplomatique qui précède l'action diplomatique. Et si Talleyrand a été un visionnaire, c'est aussi parce qu'il a été un homme extrêmement attentif au passé politique et diplomatique de l'Europe.
Alors laissons, si vous voulez bien, Emmanuel de Varesquiel, laissons Talleyrand diplomate, aussi passionnante que soit sa figure à cet égard. Et venons-en à un autre aspect de la légende noire, c'est-à-dire ses relations avec l'argent. Et là, il faut espérer que la modernité ne soit pas trop marquée, puisqu'il y a une absence de scrupules chez lui. C'est une litote qui marque toute la suite de son activité. Au moment où il a été nommé ministre des Relations extérieures pour la première fois par le Directoire, il a dit « maintenant, il faudra faire une immense fortune ». Cette époque du Directoire, avec ce laxisme retrouvé après l'incorruptible Robespierre, est évoquée dans la chanson que voici, une chanson anonyme de 1795.
Notre montagne enfant d'un directoire, applaudissons à son dernier succès, car sous ce nom inconnu dans l'histoire, Saint Roi nouveau gouverne les Français. Peuple trompé, pour toi la République doit être encore le mot de ralliement. Mais tes cinq rois par une route oblique la conduiront bientôt au monument. En adoptant un luxe ridicule, ils font gémir la sainte égalité. À leur aspect, la liberté recule, et dans leur cœur, plus de fraternité. La majesté du peuple est avilie, malgré l'éclat de leur riche manteau. Et dans les camps, l'amour de la patrie se réfugie à l'ombre des drapeaux.
C'était une chanson interprétée par Bernard Demigny. Alors il y a le mot très sombre, le mot fameux qu'aurait eu Talleyrand lorsque il... est nommé pour la première fois ministre des Relations extérieures au moment du directoire. Il s'adresse dans sa calèche, semble-t-il, à Benjamin Constant.
Nous allons faire une immense fortune, une fortune immense, une immense fortune, une fortune immense, lui dit-il, tout le long du voyage en lui tenant le genou. Ça se passe en 1797 et la chanson date de 1795 et dénonce déjà cet affairisme qui sera ou qui fera à tort ou à raison en partie la réputation du directoire, affairisme auquel évidemment Talleyrand a participé. Mais il faut aller au-delà du mot de Chateaubriand qui détestait Talleyrand et qui disait « lorsque monsieur de Talleyrand ne conspire pas, il trafique ». Évidemment, la notion merveilleusement transformée en litote de douceur diplomatique a été omniprésente dans la carrière diplomatique de Talleyrand. Mais il faut revenir un peu en arrière et voir à quel point Talleyrand, avant d'être un très très grand homme d'affaires, secret et public qu'il a été un penseur de l'organisation financière de l'État. Et que, au fond, s'il avait aimé, il aurait aimé avoir plutôt le ministère des Finances que le ministère des Relations extérieures. Il a bombardé Bonaparte de plans de finances, notamment contre l'Angleterre. Il pensait que la meilleure solution à adopter n'était pas l'asphyxie commerciale, mais l'asphyxie du crédit de la Banque d'Angleterre, et notamment en menant une action sur les réserves en or de la Banque d'Angleterre. Je viens de trouver un plan de finances de Talleyrand autour de cette question qui a ressurgi d'un fonds d'archives inédit jusqu'à aujourd'hui.
Il faut dire qu'il avait été lui-même pendant 3 ou 4 ans un promoteur immobilier, un acteur économique très efficace aux États-Unis, très apprécié par les hommes d'affaires là-bas. Bering disait « J'ai une haute opinion de ses capacités, mais je doute de son honnêteté ».
Il a été, au-delà des affaires qu'il a fait aux États-Unis, il a été un prospecteur de terrain et un spéculateur sur les terrains à viabiliser dans le nord-est, dans le Maine, ce qui deviendra l'État du Maine aux États-Unis. Mais il a été, avant même la Révolution, une sorte de capitaine d'industrie, en participant aux entreprises industrielles les plus modernes de l'époque. Il a été très proche de ces libre-échangistes qui ont participé au traité de commerce signé en 1787 à l'époque de Calonne entre la France et l'Angleterre, qui étaient des gens comme Isaac Panchaud. Et il a toujours été très sensible à cette notion de libre-échange économique et commercial entre les pays. Il a toujours considéré d'ailleurs que l'aspect économique de la diplomatie était un aspect extrêmement important.
Modernité donc contre son temps, où les frontières étaient hérissées de partout contre la circulation des biens et des marchandises.
Grande modernité de ce point de vue-là, et constante du point de vue de ses idées aussi.
Il a prévu d'ailleurs que l'Amérique serait un jour un pouvoir colossal, alors qu'il visite New York à un moment où New York n'a que 10 000 habitants.
Il a un mot très extraordinaire sur les États-Unis. Il y est en 1795 et il écrit, là encore, il y a de la propagande, une série de lettres à Lord Lansdowne, qui est un de ses amis libéraux anglais, qui est à Londres, et qui sont évidemment censées circuler, ces lettres. Elles sont censées faire la réputation de Talleyrand, homme d'affaires et observateur des États-Unis en 1795. Et il prononce ce mot qui est tout à fait étonnant. Il dit « Les États-Unis », c'est en 1795, hein, n'oublions pas, une phrase qui est valable pour les États-Unis quasiment jusqu'à aujourd'hui, peut-être moins maintenant avec la montée en puissance de la Chine, mais il dit ceci « Les États-Unis n'ont pas de passé, ils ont à peine un présent et ils nous menaceront toujours de leur futur ». C'est un mot formidable. Et il y a quelque chose d'autre du point de vue de la vision de Talleyrand s'agissant des États-Unis que je trouve très pertinent. Les États-Unis sont à l'époque en paix avec la France et en guerre avec l'Angleterre, qui est l'ancienne puissance coloniale. Et il dit, le partenaire privilégié des États-Unis en Europe, ça ne sera pas la France, ça sera toujours l'Angleterre. Et il le prouve pour des raisons de système juridique, de langue et de religion. Et il y a quelque chose qui est là aussi incroyablement pertinent.
On ne peut pas oublier néanmoins le fait que c'est une diplomatie qui est très largement actionnée par de l'argent caché. par de l'argent qui obscure, qui stipendié. Par exemple, il y a le cas fameux de Erfurt, rencontre entre le tsar et Napoléon, où Talleyrand va, il semble que ce soit avéré, contre de l'argent, donner des renseignements au tsar sur ce que pense l'empereur. Vous dites plaisamment quelque part, on imagine mal Maurice Couve de Murville, à l'époque du général de Gaulle, aller toucher de l'argent de Brejnev pour lui dire ce qui avait été formulé à l'Élysée.
En effet, avec Talleyrand, pendant les affaires qui sont les affaires de l'État et qui sont les affaires des négociations publiques, les affaires de Talleyrand continuent. Les deux plus extraordinaires coups qu'il a fait, c'est à Erfurt, organisé en marge du congrès de Napoléon et d'Alexandre Ier, le mariage de son neveu avec l'une des plus riches héritières d'Europe, qui est Dorothée de Courlande, qui deviendra par la suite sa maîtresse, et encore plus extraordinaire, en 1815, la vente d'un duché, qui est le duché de Bénévent, qui lui avait été attribué par Napoléon sous l'Empire, qui ne lui appartient plus par le fait même de l'abdication de Napoléon et de la chute de l'Empire, et qui, comment vendre quelque chose qui ne vous appartient plus et le vendre très cher. C'est précisément ce que Talleyrand réussit à faire en jouant des rivalités. Le duché de Bénévent se trouve dans le sud de l'Italie, entre le pape et le roi de Naples. Il a réussi quelques coups de ce type-là. Alors, il ne s'agit pas de justifier quoi que ce soit, il ne s'agit pas de porter de jugement de moralité. Après tout, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, disait François Furet, et je m'inscris tout à fait dans cette opinion-là.
Il n'est pas le seul à l'avoir dit, mais on peut néanmoins comparer avec aujourd'hui.
Comparer et expliquer, c'est-à-dire qu'à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, les traditions de négociation de l'époque de Talleyrand s'inscrivaient dans un contexte qui est celui de l'indistinction de l'argent public et de l'argent privé, qui a été toute l'histoire de l'Ancien Régime. C'était un usage qui était admis d'ailleurs par l'ensemble du monde diplomatique et du monde politique. Bonaparte le premier fait des affaires en Italie en 1796. Et on sait à quel point les munitionnaires des armées avaient une importance considérable à l'époque des armées napoléoniennes sous l'Empire.
Je voudrais que nous terminions notre conversation, Emmanuel de Varesquel, assez logiquement par le récit de la mort de Talleyrand, parce que ce n'est pas, si je puis dire, rien n'était ordinaire chez lui, ce n'est pas une mort ordinaire, elle parle aussi pour ce qu'il a été. Il meurt, comme c'était le cas encore souvent à l'époque, quasiment en public, dans des conditions dramatiques, marquées par un effort de l'Église catholique pour récupérer, dirait-on, l'âme en perdition du diable boiteux.
Oui, l'Église ne plaisantait pas avec l'apostasie et avec les reniements, et Talleyrand avait beaucoup à se faire pardonner de ce point de vue-là. Il est celui, il a été d'abord un très bon élève du clergé, comme agent général, comme on l'a dit tout à l'heure. Puis ensuite, il est celui qui est à l'initiative de la vente des biens du clergé, puis qu'il prête serment à la Constitution civile du clergé en 91. Non seulement il jure, mais il sacre, comme dirait Monseigneur de Jarente, c'est-à-dire qu'il est celui qui va sacrer les deux premiers évêques constitutionnels qui vont créer le schisme que l'on connaît, qui ne sera réduit qu'en 1802 avec le concordat auquel Talleyrand participe aussi d'ailleurs en signant son propre concordat personnel avec le pape. Mais l'Église et Rome ont toujours considéré qu'il restait sous le coup des sacrements de l'Église qu'il a reçus comme prêtre et comme évêque. Et malgré ces sacrements, non seulement Talleyrand revient à la vie civile, mais il se marie, et il ne se marie pas avec n'importe qui, il se marie avec une pétroleuse d'enfer qui s'appelait Catherine Grand et qui était elle-même divorcée d'un protestant, ce qui faisait un peu beaucoup pour l'Église. À la fin de sa vie, via l'archevêque de Paris, on lui a demandé une rétractation. Et toute la négociation de Talleyrand dans les dernières semaines de son existence, alors qu'il était dans des souffrances absolument incroyables, a été de transformer cette rétractation en justification. Et pour cela, il s'est servi de son pied bot. Et il a fait de son pied bot cette légende de l'accident qui l'aurait conduit contre sa volonté à devenir prêtre. Et dans cette lettre de justification qu'il envoie au pape, quelques jours avant sa mort, et qu'il signe la veille de sa mort, de sa grande signature diplomatique, comme il le dit, il y a cette phrase « Toute ma vie a été conduite vers une carrière pour laquelle je n'étais pas fait ». Et il se recompose de façon extraordinaire. Sa mort est une mort de stoïcien, c'est une mort publique, c'est une mort d'homme de cour, une mort d'étiquette. Il y a la veille de sa mort aussi, cette visite de Louis-Philippe. Plus personne ne pouvait comprendre ce que signifiait la visite d'un roi à un particulier au moment de la mort de ce particulier. « Sire, c'est un grand honneur que votre majesté fait à ma maison. » La notion de maison est à prendre avec un M majuscule. C'est pas la domus, c'est pas la maison qu'il habite, c'est la maison de Talleyrand. C'est la généalogie de la famille de Talleyrand, ce sont les commensaux de Talleyrand, c'est ça. Et c'est un usage qui n'existe plus. Et lorsque Louis-Philippe vient lui rendre visite, il trouve le moyen, alors qu'il est alité et qu'on arrive à le soulever à l'aide de cordes et de poulies, il trouve le moyen de surmonter sa douleur jusqu'à se lever pour recevoir le souverain et pour recevoir Louis-Philippe. Il y a là une mort extraordinaire qui signifie quelque chose qui relève d'un trait de caractère qui est le caractère précisément dont on parle peu à propos de Talleyrand et qui est probablement un des éléments fondamentaux de sa psychologie.
Parce qu'il y a en même temps cette caractère dramatique, cette puissance du caractère et l'opinion qui dénigre Talleyrand, qui s'en moque. On a probablement forgé ce mot de Talleyrand disant au roi « Je souffre comme un damné, Louis-Philippe, étant supposé avoir simplement murmuré « Déjà !» Et rien ne vaut mieux, me semble-t-il, Emmanuel de Varesquiel, pour terminer cette conversation en montrant ce qu'a pu être le regard d'un romantique, d'un grand romantique sur un homme des Lumières. C'est cela, le dialogue qui s'instaure. Voilà comment Victor Hugo, dans « Chose vue », en 1838, évoque la disparition du diable boiteux. C'est Bernard Brieux qui lit cet extrait en 1996.
Il avait successivement attiré et pris héros, penseurs, grands hommes, conquérants, rois, princes, empereurs, Bonaparte, Sieyès, Madame de Staël, Chateaubriand, Benjamin Constant, qui bourdonnent dans l'histoire de ces 40 dernières années. Tous ces étincelants essaims, fascinés par l'œil profond de cet homme, avaient successivement passé sous cette porte sombre qui porte, écrit sur son architrave, Hôtel Talleyrand. Eh bien, avant-hier, 17 mai 1838, cet homme est mort. Des médecins sont venus et ont embaumé le cadavre. Pour cela, à la manière des Égyptiens, ils ont retiré les entrailles du ventre et le cerveau du crâne. La chose faite, après avoir transformé le prince de Talleyrand en momie et cloué cette momie dans une bière tapissée de satin blanc, ils se sont retirés, laissant sur une table la cervelle. Cette cervelle qui avait pensé tant de choses, inspiré tant d'hommes, construit tant d'édifices, conduit 2 révolutions, trompé 20 rois, contenu le monde. Les médecins partis, un valet est entré, il a vu ce qu'ils avaient laissé. Tiens, ils ont oublié cela, qu'en faire? Il s'est souvenu qu'il y avait un égout dans la rue. Il y est allé et a jeté ce cerveau dans cet égout.
Alors un dernier mot, Emmanuel de Varesquiel, après Victor Hugo, si vous osez.
Le texte de Victor Hugo, il s'inscrit parfaitement dans cette construction de la légende noire du personnage. Évidemment, cette histoire racontée par Victor Hugo de la cervelle de Talleyrand qui échouerait lamentablement dans le caniveau parisien est une invention absolue et pure de Victor Hugo, de l'imaginaire romantique de Victor Hugo. Et ce texte est tellement beau que je ne résiste pas à l'envie d'en citer la première phrase qui n'a pas été mentionnée dans ce que nous avons entendu. Ça commence comme ça. « C'était un personnage étrange, redouté et considérable. Il s'appelait Charles Maurice de Périgord. Il était noble comme Machiavel, prêtre comme Gondi, défroqué comme Fouché, spirituel comme Voltaire et boiteux comme le diable. »
Le dernier mot donc de cette émission aura été laissé, et personne ne s'en plaindra, j'imagine, à Victor Hugo. Votre biographie essentielle consacrée au diable boiteux s'appelle « Talleyrand, le prince immobile » paru chez Fayard en 2003. Et vous avez, parce que vous l'aimez tellement que vous y revenez sans cesse, vous avez publié plus récemment un livre qui s'intitule « Talleyrand, dernière nouvelle du diable » où vous reprenez un certain nombre d'aspects de sa biographie. Vous nous préparez un Fouché ?
Et je prépare un Fouché. Quand on a fait le vice, il faut faire le crime.
Eh bien, nous l'attendrons avec impatience. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet. préparé par Jeanne Guérou et Nathalie Lempereur, réalisé par Patrick Molinier, avec Tahar Boukifa à la prise de son, Jacotte Degrange à la discothèque et Catherine Louis pour les Archivina. Dans quelques instants, vous allez retrouver Dominique Rousset, comme chaque samedi, pour l'économie en question.